Voilà, bonjour à tous et à toutes. J'ai beaucoup de joie à être parmi vous ce matin. En fait, je prêche chaque dimanche dans une autre église. J'étais au Figuier dimanche passé. Je serai à l'église du Réveil dimanche dans deux semaines, puis dans une église à Neuchâtel. Et le Seigneur m'envoie aussi au Valais et partout. C'est l'avantage d'être enseignant en école biblique, c'est qu'on travaille la semaine. Puis le dimanche, on ne sait pas quoi faire. Alors on prêche à gauche, à droite. Et comme je l'ai dit à notre frère, j'ai été invité dans une église de Paris dernièrement pour donner un séminaire du vendredi au dimanche. Et je serai de nouveau invité en septembre et octobre pour donner là aussi un séminaire dans cette même grande église. Et quand j'y étais en février, j'ai demandé à l'assistance, une personne veut-elle prier? Et elle a prié en chinois, j'ai rien compris. Même pas amen. Alors, il y a eu un temps de silence, je me suis dit, elle a fini sa prière, alors je peux commencer à prêcher. Au moins, toi, j'ai entendu ta prière, elle est amen. Alors, lecture biblique, Jonas au chapitre 4, le verset 1 à 11. Jonas chapitre 4, verset 1 à 11. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort ». Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Alors les mots-clés... Repentir, miséricorde, compassion, obéissance, désobéissance, nation, mère. Si vous retenez ces mots-là, ben vous aurez compris la prédication. Et je peux m'arrêter ici. Allons plus loin. Alors, introduction. Jonas, c'est un personnage connu dans le christianisme, mais pas seulement, aussi le judaïsme et même ceux qui ne font pas partie d'un groupe religieux particulier. Si vous allez dans la rue, vous questionnez une personne, qui est Jonas? La plupart du temps, les gens le savent. Ah oui, c'est ce gars dans la Bible qui a été mangé par un poisson et recraché, et puis qui a allé, enfin. Jonas, c'est un personnage extrêmement connu, même par les non-chrétiens. Et puis, l'histoire de Jonas, elle est simple. Elle ne prend que deux pages dans la Bible et en la lisant à haute voix, cela prend 8 minutes. Peut-être que vous êtes plus rapide que moi, surtout les jeunes là-bas, et vous la lirez en 6 minutes. Moi, il m'a fallu 8 minutes. Alors, Dieu confie à Jonas d'annoncer un jugement sur Ninive. Plus loin. Alors, il faut qu'on comprenne ce texte dans son contexte. Le type littéraire du livre de Jonas, eh bien, ce livre de Jonas appartient principalement au genre prophétique, puisqu'il est dit « Dieu dit », eh bien, c'est la parole de Dieu qui s'exprime, mais c'est aussi un genre narratif, quand il tombe dans le poisson, qu'il est avalé, qu'il est recraché sur le visage, et quand il fait sa cabane, là, on est dans du narratif. Ce sont des choses qui se sont faites et on n'est pas dans du symbolique. Hein? Parce que ça, c'est du narratif et du prophétique. Alors, on y retrouve des éléments historiques, des faits, des circonstances concrètes entremêlées, comme je l'ai dit, à des paroles prophétiques. Dieu dit. Alors, qui est l'auteur? Jonas. C'est pas n'importe qui, vous savez, Jonas. C'est un prophète juif, et il est connu, mais il est présenté comme un anti-héros, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas aux attentes traditionnelles des prophètes, parce que la plupart du temps, quand Dieu confie une mission à un prophète, ce prophète, il prend les jambes à son cou et il accomplit la mission que Dieu lui a attribuée. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament, c'est ça. Dieu parle à Élie, Dieu parle à Moïse. Bon, il rouspète un peu, mais il fait assez vite la volonté du Seigneur. Ici, non. Dieu parle à Jonas, c'est un prophète du Seigneur. Mais quand Dieu lui parle, il fait exactement l'opposé. Et il se fâche. Et il pique une colère. Et cette colère, il la pique contre le Seigneur, son chef. Alors, qui sont les lecteurs de ce texte qui était extrêmement connu? Eh bien, ce sont les gens qui lisaient la lecture prophétique de l'Ancien Testament. Au fond, c'est comme Job, c'est un texte extrêmement ancien qui circulait, cette histoire-là. Tous les gens la connaissaient. Allons plus loin. Où cette histoire se déroule-t-elle? À Ninive. Mais il faut qu'on dise deux, trois petites choses sur Ninive. Ninive, c'est pas Malraux, où j'ai passé 20 ans de ma vie. C'est beaucoup plus grand, même si Malraux est le centre du monde, hein. Surtout avec l'atelier de peinture de mes parents et de mon frère. Ninive, c'est quoi? C'est la capitale de l'Empire assyrien, l'une des plus grandes puissances du monde ancien. Elle a été fondée sur les rives du fleuve Tigre et cette métropole prospérait par le commerce et elle était réputée pour son architecture extraordinaire. Vous alliez à Ninive pour acheter des tissus brodés, les plus beaux. Vous alliez à Ninive pour voir son architecture, comme vous pouvez aller à Venise. Voilà, les gens se rendaient à Ninive parce que c'était une ville riche en culture, riche en architecture, riche en commerce. Mais Ninive est connue aussi pour autre chose. Eh bien, Ninive avait un certain nombre de pratiques religieuses assez particulière. Ça veut dire que dans ces pratiques, on faisait des sacrifices humains. Vous alliez à l'église, enfin, dans le temple. C'était pas l'église, c'était ni le temple, mais dans des lieux où, à un moment donné, plutôt que de prendre la Sainte Cène ou de louer le Seigneur, on amenait quelqu'un et on lui coupait la tête. Un sacrifice humain. Pas très encourageant cette ville-là, hein. C'est pas le genre d'endroit où j'irais me promener facilement. Et pourtant les gens affluaient et les gens aimaient ces réunions, ces rencontres où on faisait des sacrifices humains. Bizarre, mais à l'époque oui. Eh bien, Ninive était aussi réputée pour être une ville extrêmement violente et sanglante. Avec ce genre de pratiques qui n'était pas forcément courante ailleurs, mais qui était extrêmement répandue dans cette ville, allons plus loin. Alors, comment ce texte s'insère-t-il dans l'argument du livre tout entier ? Dans les chapitres 1 et 2, il y a le Seigneur, Dieu, qui appelle Jonas, son prophète, hein, son ouvrier, et qui lui dit, écoute, tu vas à Ninive, tu vas prêcher la repentance. Enfin, si moi, mon patron me dit, tu vas à cette façade à court, travailler, et que je lui dis, je pars à Tavannes me prélasser, il ne sera pas très content. Dieu donne un ordre à Jonas, va à Ninive, prêcher l'évangile, annoncer la repentance, et le cocaïne part ailleurs, mais à l'autre bout, à l'opposé. Ça, ce sont les chapitres 1 et 2, l'appel, la fuite, la tempête. Dieu est souverain sur toute chose, on le verra tout à l'heure. Le Seigneur permet une tempête et Jonas est jeté à l'eau. Il est englouti par ce poisson, il y reste 3 jours, il est recraché sur le rivage. Ça, c'est les chapitres 1 et 2. À partir de là, Jonas a compris qu'il ne peut pas faire autrement que de faire la volonté du Seigneur. Parce que passer 3 jours dans le ventre d'un poisson, ce n'est pas hyper amusant. Mais vous savez que c'est arrivé à un pêcheur. Hein. Il est resté 3 jours dans le ventre d'un poisson, il a été recraché vivant. Les chapitres 3 et 4, Jonas finit par obéir, mais à contre-cœur. Et on va s'attarder à ce chapitre 4 tout à l'heure. Ninive se repent. Et la réaction de Jonas face à la repentance de Ninive, plutôt que de se réjouir, sa colère amplifie. Allons plus loin. Alors, comprendre le texte lui-même, le texte que nous avons lu, les chapitres 1 à 11 de Jonas. Parfois, on pense que le message principal de Jonas est que si on obéit à Dieu, eh bien, tout va très bien aller. Si on lui désobéit, un événement extraordinairement difficile va nous arriver. C'est vrai que parfois c'est ça, mais pas toujours. Ici, ce chapitre 4, on peut clairement dire que la colère de Jonas donne le ton au chapitre. Ça commence au verset 1, « Jonas fut irrité contre le Seigneur et son irritation, elle ne va pas s'arrêter. » Et au chapitre 11, qui clôt ce chapitre, eh bien on ne sait pas, ça s'arrête là. Est-ce que Jonas s'est calmé un petit peu par la suite ? Le texte ne nous le dit pas. Donc, au verset 1, Dieu décide d'épargner les Ninivites du jugement et de l'extermination. Et comme je l'ai dit, Jonas est irrité. Le verset 1 nous dit « Cela déplut fort à Jonas et il fut très irrité. Cela fut très mal pris par Jonas. » Jonas prend très mal le fait que Dieu veuille pardonner les Ninivites. Cela semblait un grand mal pour Jonas, ou Jonas vit cela comme un grand mal. Mais vous savez que quand on reprend le texte hébreu, mais je ne vais pas faire de l'hébreu, je vous rassure maintenant ici, hein, on n'a pas le temps, mais si vous prenez le mot « mal » dans la bouche de Jonas, c'est le même mot qui apparaît pour décrire le mal que font les Ninivites par leur sacrifice humain. Les Ninivites font mal. Jonas dit que Dieu fait mal en leur pardonnant. Au fond, le même verbe. Donc c'est fort. Hein. Je vous rappelle que Jonas est prophète. Et imaginez un pasteur qui vient et qui dit « mais Dieu fait mal » et que le verbe qu'il utilise, c'est le même pour décrire les gens qui font les pires atrocités. Donc Jonas, il y va fort hein, dans ce passage-là. Alors Jonas implore. Allons plus loin. Jonas implora l'Éternel. Il se met à prier. Alors c'est bien de prier. Il est dit prier en tout temps, mais la prière de Jonas ici, Dieu l'accueille. Est-ce que Dieu accueille cette prière en se bouchant les oreilles? Non, Dieu accueille la colère de Jonas et l'incompréhension de Jonas. Et ça, moi, ça me désarme. Comment Dieu peut-il accueillir une prière aussi particulière que celle de Jonas? Mais Dieu l'accueille. Une plainte sincère, mais difficile. Et puis, Dieu ne nous interdit pas de l'interroger. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, un croyant comme Jonas peut parfois même se mettre en colère contre Dieu. En tout cas, ça, c'est Jonas. Parce que simplement, Jonas ne comprend pas le plan de Dieu. Il ne le comprend pas. Et puis, une prière agonisante, celle de Jonas, une prière pleine de larmes et de douleurs, mais une prière quand même. Et puis, Dieu se soucie de répondre à la plainte de Jonas, et il va le faire. Mais Dieu n'est pas tributaire de nos prières. Si Jonas implore le Dieu de punir Ninive, c'est qu'il a ses raisons quelque part. Mais Dieu n'est pas obligé de suivre ce que Jonas lui demande. On l'a dit, Ninive était une ville extrêmement brutale. Je ne sais pas, le texte ne nous le dit pas. Est-ce que Jonas aurait perdu des membres de sa famille à Ninive? Mais Jonas savait que si ces Ninivites se repentaient, ils recommenceraient un petit temps plus loin. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Pour Jonas, sa logique à lui, c'est mieux d'exterminer ce peuple. Il est trop violent, il est trop dangereux, il faut en finir avec ce peuple. Et dans un sens, il a raison. Mais Dieu voit les choses autrement. Jonas implora le Seigneur pour qu'il renonce à épargner Ninive, sachant que les Ninivites, même s'ils se repentaient, continueraient à mal agir après coup. Alors, allons plus loin. Le contenu de la prière de Jonas, le motif, Dieu est compatissant et Jonas le sait. Et c'est comme si Jonas dit, tu peux être compatissant avec tous les peuples, mais pas avec ceux-là. Ils sont trop barbares, ils sont trop méchants, ils sont trop meurtriers. Ne leur pardonne pas, extermine-les. Mais Jonas veut la justice selon sa vision à lui. Et puis, la demande que Dieu le tue plutôt que de voir la miséricorde. Vous vous rendez compte où Jonas en arrive dans sa prière? Tue-moi. Si tu leur pardonnes et que tu les laisses vivre ces Ninivites, alors moi je te demande, Seigneur, de me tuer. Et il le répétera à plusieurs reprises. La première, c'est quand Dieu décide d'épargner les Ninivites, Jonas répond, eh bien tue-moi, j'ai pas envie. Voilà. La deuxième fois, c'est quand il chope ce fameux coup de soleil. On y reviendra tout à l'heure. Mais j'aimerais revenir sur l'attitude de Dieu. Allons plus loin. Fais-tu bien de t'irriter? Je peux imaginer un Jonas dans la scène, tellement en colère, tellement défait. Tue-moi, si tu leur pardonnes, si tu laisses ce peuple sanguinaire continuer, si tu leur pardonnes le mal qu'ils ont fait. Imagine, Seigneur, un tel est mort là-bas, l'autre aussi, c'est un peuple qui opprime le monde entier. Si tu leur pardonnes, alors tue-moi, s'il te plaît. Et Dieu qui lui répond, mais Jonas, as-tu le droit d'être en colère? As-tu le droit d'être en colère? Oui, ben bien sûr. As-tu le droit d'être en colère? Jonas, as-tu le droit de remettre en question la ligne de conduite que Dieu décide de prendre ? Si Dieu décide d'épargner Ninive, Jonas, tu n'es qu'un serviteur, as-tu le droit de remettre en question la ligne que je prends ? Allons plus loin. Alors il y a comme ça un dialogue entre Dieu et Jonas, un Jonas qui est toujours comme une boule de colère, et Dieu qui discute, qui ne s'offense pas de la colère de Jonas, mais qui parle avec lui, un dialogue. Dieu ne fuit pas parce que Jonas est en colère. Et qu'est-ce que Jonas va faire ? Il se construit une cabane. Et à votre avis, pourquoi est-ce que Jonas se construit une cabane ? Moi, j'en avais construit une au Montau, hein, et j'avais une belle vue depuis là. Jonas se construit une cabane, le texte nous le dit, pour se protéger de la chaleur, parce qu'il fait extrêmement chaud, comme tous ces jours. Mais pas seulement. Depuis sa cabane, le coquin, il veut voir si Dieu ne changera quand même pas d'avis. Et j'imagine Jonas dans sa cabane, hein, bien assis à l'ombre, et il attend. Ah, mais peut-être que ma prière, où je demande avec une telle assistance à Dieu d'exterminer Ninive, peut-être que Dieu changera d'avis et puis qu'il fera ce que je lui demande. Il exaucera ma prière. Donc Jonas est là dans sa cabane et il veut voir ce qui arrivera vraiment à la ville. Parce qu'il se dit, mais peut-être que Dieu changera d'avis et qu'il exterminera cette ville. Le texte nous le dit, reviens juste en arrêt, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Allons plus loin. Et Dieu fit pousser une plante, pas très loin de l'entrée de sa cabane. Dieu fit pousser une plante. Dieu fit pousser une plante au verset 6. Dieu fit venir un ver qui détruit le ricin. Bon, arrêtons-nous deux secondes sur ces filles venir. Le Seigneur produit un ricin qui pousse comme ça en quelques heures. Mais ça, c'est du jamais vu. Moi, j'ai planté des choses dans mon jardin. J'ai planté des tomates. Ben, il a fallu quelques semaines pour que ça produise. Mais un ricin, c'est plus grand. Et puis, en une nuit, le ricin a poussé. Pour qu'il ait de l'ombre, plus d'ombre que sa cabane ne peut lui apporter, et un peu de fraîcheur. Eh bien, le texte nous dit que Dieu fait pousser ce ricin pour qu'il ait un peu plus de fraîcheur, mais aussi pour que son irritation lui soit enlevée. J'imagine que Dieu en a un petit peu marre de son prophète qui rouspète à longueur de journée, de son prophète qui le remet en question. Et Dieu fit pousser le ricin. Et puis, pour le délivrer de son irritation, nous dit le texte, et pour le délivrer du mal et du soleil. Voilà. Voilà. Jonas, là, il est toujours fâché contre le Seigneur. Il attend depuis sa cabane que Ninive soit détruite. Mais au moins, là, par rapport au soleil, la question est réglée. Il est bien, bien sous son ricin. Et puis, au verset 7. Eh bien, le Seigneur fait venir un ver qui pique le ricin, et le ricin, il s'étiole, il sèche. Mais vous aurez remarqué que « fit venir », c'est la troisième fois qu'on l'a. Hein. On l'a quand Dieu fait venir un grand poisson au bon moment et de la bonne taille et au bon endroit pour avaler Jonas. Venir, le grand poisson fit venir. Ensuite, oh là, Dieu fit pousser le ricin en une nuit, et ensuite Dieu fit venir un petit ver minuscule qui pique le ricin, et ce ricin creuve. Trois fois fit venir dans la main du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à votre avis? Dieu est souverain sur le grand poisson. Le grand poisson lui obéit. Quand Dieu dit au poisson, va là, engloutit Jonas, repose-le sur la plage. Eh bien, Dieu est souverain, ce n'est pas un hasard. Dieu est souverain sur le risset et Dieu est souverain sur le ver. Dieu est souverain sur tous les détails. Et je peux imaginer que ça travaille, ça commence. Mais dis donc, le Seigneur est plus puissant que moi. Il a conduit le poisson. Il a fait pousser cet arbre. Il envoie un ver. Et Dieu reprend ça, mais je suis aussi souverain sur les 120 000 hommes qui habitent Ninive et sur les animaux. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est aussi épargner les enfants de Ninive. Alors, là encore, une fois que le risset est mort, Jonas redouble sa colère et Dieu revient vers lui de façon compatissante en lui disant « Fais-tu bien de t'irriter à cause du risset ?» Il y a là aussi une clé assez intéressante. Quand quelqu'un est en colère devant vous, vous avez intérêt à être calme, quoi. En tout cas, ici, Jésus est calme. Enfin, Dieu est calme. Si vous montez les enchères, si Dieu avait monté les enchères comme Jonas, ça serait été une catastrophe. Dieu reste calme. Mais fais-tu bien de t'irriter à cause du risset? Alors, allons plus loin. Au verset 10 et 11 clôture le livre, particulièrement notre section ici du chapitre 4, avec la réponse finale du Seigneur. Et l'Éternel dit, tu as pitié du risset, qui ne t'a coûté aucune peine. Entre guillemets, ce n'est pas toi qui l'as planté, ce risset. Ce n'est pas toi qui l'as soigné, qui l'as arrosé. Tu as pitié de ce risset qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Comprendre la perspective de Dieu, allons plus loin. Dieu a compassion de Ninive. Il est souverain sur le destin de Ninive et des gens qui se perdent. Et Dieu ne voit pas la même... Dieu ne voit pas les choses de la même façon que Jonas. Dieu a décidé d'épargner Ninive. Jonas ne le comprend pas. Mais la perspective de Dieu de sauver Ninive n'est pas celle de Jonas. Même si ce peuple est cruel, et on l'a dit tout à l'heure, il est cruel. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il ne fait pas partie d'Israël, le peuple de l'Alliance. En plus d'être cruel, Ninive est un peuple étranger à l'Alliance. Dieu décide d'épargner ce peuple, même s'il est étranger au peuple de Dieu. Au fond, là, on a déjà en substance le message de l'Évangile, chers amis. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Je l'ai dit, c'est un texte extrêmement ancien, probablement écrit à peu près, très, extrêmement difficile de dater les textes, j'imagine. Job, c'est 5000 ans. Ce texte est légèrement 5000 ans avant Jésus-Christ. Ce texte, est pas, on peut le situer à peu près en même temps que Job, peut-être 4500 ans avant Jésus-Christ. C'est un texte extrêmement ancien. On est très loin du message de l'Évangile et du salut en Jésus-Christ, puisqu'il faudra encore attendre plus de 4000 ans avant que Jésus ne vienne. Mais on a ici le message de l'Évangile, la compassion de Dieu pour toutes les nations. Et ça, Jonas ne le comprend pas. Allons plus loin. Comment peut-on mettre ce texte en perspective avec l'ensemble de la Bible et notamment les évangiles? Jonas ne peut voir les choses que de son propre point de vue. Il est borné à sa vision. Les Ninivites, c'est un peuple méchant, tueur, rebelle, étranger à l'Alliance, loi d'Israël, il faut les exterminer. Mais du point de vue du Seigneur, les choses fonctionnent différemment. Le livre ne nous raconte pas la réponse de Jonas. Était-il sensible ? A-t-il changé d'avis ? On n'en sait rien. Allons plus loin. J'aimerais qu'on tire quelques conclusions. L'histoire s'arrête là pour Jonas, mais j'allais dire la nôtre commence. Mais si nous étions à la place de Jonas, si, mettez-vous 2 secondes avec ce qu'on a dit sur Ninive. Si vous étiez à la place de Jonas, que feriez-vous ? Et si je peux me permettre de tirer un parallèle, eh bien, imaginez que vous soyez, il y a 80 ans, durant la dernière guerre mondiale, avec des nazis qui vous auraient pris votre famille et l'auraient exterminé à Auschwitz, et qu'on vous dise, ben Dieu va pardonner ces nazis-là. Vous diriez quoi ? Vous diriez, Seigneur, là tu fais quelque chose d'extrêmement faux. Et si vous étiez appelé, vous maintenant, ou moi, à aller à Ninive aujourd'hui, mais vous savez où se trouve Ninive en fait, le Ninive moderne ? En fait, c'est près de la ville de Mossoul. Et Mossoul, ça vous dit quelque chose ? On en a entendu parler dans les médias. Eh bien, ça nous fait penser aux terroristes de Daesh. Si Dieu vous demandait d'aller à Mossoul prêcher l'évangile aux assassins de Daesh, en leur disant que Dieu va leur offrir sa grâce, parce que son pardon est illimité, que feriez-vous ? Bon, moi, j'aurais la même attitude que Jonas, soyons clairs. Ou d'aller témoigner à ceux qui ont fait les actes de terreur à Barcelone, à Paris ou à Nice. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Je me souviens que quand j'étais pasteur à l'église néo-baptiste de Chédon, on avait notre catéchisme avec vous, hein. Et puis on avait les 3 églises avec celle du plein d'évangile, un catéchisme. Et je me souviens extrêmement bien d'une leçon qu'on a eue ici dans vos locaux, parce qu'on se partageait un peu les locaux et on parlait du pardon. Et quand on a dit que Dieu nous pardonnait nos péchés, mais que nous étions aussi appelés à nous pardonner les uns les autres, j'ai posé la question aux ados. Et vous, si quelqu'un vous fait du mal, est-ce que vous êtes prêt à pardonner ? Toutes les bêtes se sont levées. Oui, bien sûr, on va pardonner parce que le Seigneur nous a pardonnés. Oui, mais à l'école, l'autre jour, quelqu'un m'a embêté et ça, je ne lui pardonne pas. Alors, allons encore un petit peu plus loin. Il est temps de sonder nos cœurs. Jonas n'a pas refusé d'obéir parce qu'il était paresseux ou avait peur de la méchanceté des gens de Ninive et de ce qu'ils pouvaient lui faire, mais surtout parce qu'il avait, dans une certaine mesure, une bonne théologie. Il savait que Dieu est grâce et que Dieu pardonne. Il savait dans sa tête, mais il ne l'avait pas intégré dans son cœur. Il savait que le Seigneur montrerait sa grâce et son amour aux Ninivites, et pour le prophète, cela n'était ni bon, ni juste, ni bien. Mais Dieu a le droit de montrer sa grâce et son pardon à qui il veut, même au pire des meurtriers. Savez, moi je me place maintenant à la place de Jonas et je suis comme lui. Comprendre le pardon de Dieu à mon égard, j'arrive pas à le comprendre. Sur le plan personnel, suis-je prêt à pardonner aux autres ? Ben oui, peut-être. Peut-être que je peux faire un effort, mais Dieu m'a pardonné, moi. Vous savez, accorder un pardon tel que celui que Dieu accorda à Ninive, ce n'est pas possible de façon humaine. Et je comprends tout à fait que Jonas n'y arrive pas. mais comprendre le pardon que Dieu m'accorde à moi, ça je ne le comprends pas. Et Dieu m'use de grâce pour me pardonner. Au fond, ne sommes-nous pas tous des Ninivites, étrangers à l'Alliance, meurtriers devant Dieu? Probablement aucun d'entre nous n'a tué quelqu'un, mais nous sommes pécheurs et profondément pécheurs. Allons plus loin. Jonas connaissait la méchanceté de la ville et il ressentait déjà le mal qu'elle ferait à son propre peuple. Si cette histoire avait eu lieu au 20e ou 21e siècle, Jonas aurait été appelé à prêcher aux nazis en sachant que s'il le faisait, il se repentirait, serait pardonné. Le condamnerions-nous parce qu'il ne voulait pas y aller? Mossoul, Daesh, attentat, terreur. Allons plus loin. Sommes-nous toujours prêts à pardonner à ceux qui nous font du mal? Sommes-nous vraiment prêts à refléter l'amour et la grâce de Dieu à nos ennemis? C'est difficile, voire impossible, mais c'est impossible pour nos cœurs pécheurs. Humainement, c'est impossible. Hein? Moi, je n'arrive pas à pardonner 7 fois 7 fois. C'est une telle qualité de pardon. Et quand il est dit ça dans les évangiles, il n'y a que Jésus qui soit capable de le faire, mais pas moi. Allons plus loin. Mais Christ l'a fait et il l'a fait pour nous. Imaginons un peu ce que le Fils de Dieu a fait pour nous. Ne sommes-nous pas, nous, les Ninivites? Aux yeux de Dieu, nous sommes les Ninivites, les méchants, les tueurs, prêts à recevoir le plein poids de la colère de Dieu pour recevoir au final sa grâce et son amour. Que méritions-nous? Ben, la même chose que les Ninivites méritaient. Qu'est-ce que nous avons reçu? La grâce, le pardon et l'amour de Dieu en retour. Est-ce qu'on le méritait, cette grâce, ce pardon et cet amour de Dieu? Aucun d'entre nous ne le méritait, mais Dieu nous l'a accordé. Alors, allons plus loin, on va terminer maintenant par ce verset, Romains chapitre 3, les versets 23-24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous étions tous errants, tous loin de Dieu, tous condamnés à une mort éternelle. Mais Dieu a eu grâce à notre égard, et cette grâce l'a poussé à envoyer son Fils pour mourir à notre place à la croix. Voilà le message de l'Évangile que nous trouvons dans ce chapitre 4 de Jonas. C'est un message qui est extraordinaire et qui nous présente l'Évangile de la grâce du Seigneur à notre égard. Psaume 103:8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et il le sera avec nous jusqu'à notre dernier souffle. Et Psaume 86:15, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Plus loin. Ben, c'est fini. Alors, j'espère que vous aurez pu lire dans ce chapitre l'Évangile. Je me suis toujours posé la question, pourquoi cette histoire? Et je l'ai rattachée à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette histoire est tellement utile. Est-ce que Jonas l'a compris? Peut-être. On s'arrête au chapitre 4, mais Jonas a continué de réfléchir. La grâce de Dieu à des gens qui ne la méritent pas, à des gens meurtriers, à des gens mauvais. Moi, Jonas, l'état de mon cœur, Dieu me fait grâce. Il ne serait pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Mais Jonas n'a pas lu les évangiles pour lire le sacrifice de Jésus. Que Dieu vous bénisse.